Véroa Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 2 juin 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Les titres pour commencer, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à une solution diplomatique aux tensions croissantes entre Kinshasa et Kigali. En République centrafricaine, l'ONU déplore la recrudescence des attaques contre les ONG, dont certaines ont suspendu leurs activités. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, redoute le vide sécuritaire au Mali provoqué par le retrait de l'armée française. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est visé par une plainte pour enlèvement et corruption. Nouvelle fusillade ici aux États-Unis, 5 morts, dont le tireur présumé dans un hôpital de Tulsa, dans l'Oklahoma. En Ukraine, l'armée russe resserre son emprise sur la ville stratégique de Severodonetsk, dans le Donbass. Et après 100 jours, le conflit pourrait durer de nombreux mois encore. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a plaidé mercredi pour une solution diplomatique aux tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les États-Unis veulent soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC qui est confrontée à certains défis, a-t-il déclaré à l'ouverture d'une réunion avec son homologue congolais Christophe Lutundula, qu'il accueillait à Washington. La RDC et le Rwanda s'accusent mutuellement de soutien ou protection à des groupes rebelles adverses et ces tensions sont récemment remontées d'un cran à la frontière entre les deux pays. Des centaines de personnes ont encore manifesté hier contre le Rwanda, notamment à Kinshasa et à Bukavu, et réclamant la rupture des liens avec Kigali, qu'ils accusent de soutenir les rebelles du M23. Le point avec John Linden.
À Kinshasa, une manifestation a déjà eu lieu lundi et hier, les manifestants, encadrés par la police, se sont à nouveau rassemblés devant l'ambassade du Rwanda. Nous sommes venus réclamer l'expulsion de l'ambassadeur et la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, pays agresseur, a déclaré Bienvenue Matumo, un leader de la lucha. Que les Rwandais retournent chez eux ont également scandé à Bukavu plusieurs centaines d'habitants qui ont manifesté leur soutien aux forces armées de RDC et à la police nationale dans leur lutte contre le M23. Lors d'une séance mardi du Conseil de sécurité de l'ONU, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Poppy, a estimé que la résurgence du M23 constitue une menace grave pour la région. Mercredi à Kinshasa, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, a lancé un appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue, appelant aussi les deux parties au dialogue.
En République centrafricaine, l'ONU déplore qu'une recrudescence des attaques contre les organisations humanitaires force certaines à suspendre leurs activités dans ce pays en proie à une guerre civile depuis près de 9 ans. En une semaine, à travers 4 incidents, 2 organisations humanitaires ont suspendu leurs activités suite à des attaques armées contre leurs équipes, a assuré la coordonnatrice humanitaire des Nations Unies, Denise Brown. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit craindre le vide sécuritaire au Mali après le retrait en cours de la force militaire française Barkhane. Il l'a dit dans un rapport remis hier au Conseil de sécurité. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans ce document qu'il a présenté aux 15 pays membres du Conseil de sécurité, Antonio Guterres estime que le retrait et la fin des opérations des forces françaises va probablement créer un vide dans certaines régions qui risquent d'être exploitées par des groupes terroristes armés. Le patron de l'ONU promet de mener une analyse minutieuse de la situation d'ici 6 mois pour soumettre des recommandations au Conseil de sécurité. Il déplore également les restrictions qu'impose Bamako sur le renouvellement des soldats des forces armées africaines de la MINUSMA. J'appelle les autorités maliennes à autoriser au plus vite les rotations des troupes des États d'Afrique de l'Ouest, dont certaines sont déployées pour une période supplémentaire de 4 mois. Par ailleurs, l'ONU a annoncé la mort d'un casque bleu tué dans l'attaque d'un convoi à Kidal qui a blessé 3 autres casques bleus. La MINUSMA est la mission de l'ONU qui a subi le plus de pertes humaines avec 172 de ces casques bleus tués dans des attaques au Mali.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est accusé d'enlèvement et de corruption pour avoir, selon une plainte, enlevé et interrogé des cambrioleurs tombés sur 3,8 millions d'euros cachés dans une de ses propriétés avant d'acheter leur silence. La plainte a été déposée mercredi par Arthur Fraser, ancien chef des renseignements sud-africains, dans une déclaration dont l'AFP a obtenu copie. En Éthiopie, 10 employés de médias en ligne arrêtés ces derniers jours animaient des sites illégaux et cherchaient à créer des conflits religieux ou ethniques dans le pays et de l'animosité envers le gouvernement, a expliqué hier la police éthiopienne. Au moins 12 journalistes ou employés de médias éthiopiens ont été arrêtés depuis le 19 mai à Addis Abeba ou dans la région de l'Amara, selon des collègues, leurs employeurs ou des organisations internationales de défense de la liberté de la presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, au moins 5 personnes, dont le tireur présumé, ont été tuées hier lors d'une fusillade dans le bâtiment d'un hôpital à Tulsa, dans l'Oklahoma, selon la police locale. Cette fusillade intervient quelques jours après le massacre de 21 personnes, dont 19 enfants, perpétré par un tireur dans l'école primaire d'Uvalde, au Texas, et une tuerie raciste qui a fait 10 morts au sein de la communauté noire à Buffalo, dans le nord de l'État de New York. Le tireur, un Africain-Américain entre 35 et 40 ans, était armé d'un fusil et d'un pistolet et semble s'être suicidé sur place, selon la même source. Hier mercredi, les forces ukrainiennes semblaient sur le point de perdre Severodonetsk, ville stratégique du Donbass, face à l'avancée de l'armée russe. Pendant ce temps, Kiev attend l'arrivée de nouvelles armes américaines, alors que Washington avertit que le conflit pourrait encore durer de nombreux mois. Le point avec Nanit Talani.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué que la guerre pourrait se terminer demain si la Russie mettait fin à son agression, mais qu'il n'y a aucun signe dans ce sens. Il l'a dit lors d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Washington. Cette appréciation sur la durée de la guerre a été confirmée mercredi par un responsable sécuritaire occidental sous couvert d'anonymat. Le conflit devrait durer jusqu'à la fin de cette année et probablement au-delà. La Russie engrange des gains modérés mais constants, selon la même source, qui souligne que les Ukrainiens sont de nouveau à l'offensive dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. C'est dans ce contexte que les forces ukrainiennes attendent les livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par les États-Unis. Hier, M. Blinken a assuré que l'Ukraine a donné aux États-Unis des assurances qu'elle n'utilisera pas ces nouvelles armes pour frapper des cibles en Russie. Mais le Kremlin a accusé Washington de jeter l'huile sur le feu et de décourager les Ukrainiens de s'impliquer dans des pourparlers de paix.
États-Unis, l'administration Biden tente d'inverser la vapeur sur l'inflation qui semble incontrôlable, mais pour ce faire, ses leviers sont très réduits. Michel Joseph.
Joe Biden s'en remet à la Banque centrale, la Fed, dont la mission est de contrôler les prix et assurer le plein emploi. Son président, Jerome Powell, a été reçu mardi à la Maison-Blanche avec Janet Yellen, ministre de l'Économie et des Finances. La Maison-Blanche a longtemps assuré que l'inflation était temporaire, avait annoncé un plan pour accélérer les constructions de maisons pour rendre le logement plus abordable. Elle avait aussi décidé de puiser dans les réserves stratégiques pour contenir la flambée des prix de l'essence. Elle a caressé l'idée d'augmenter les impôts sur les plus riches et projeté de réduire les droits de douane sur des centaines de milliards de produits chinois, ce que la Maison-Blanche hésite à faire dans un contexte de tension avec Pékin. Et toutes ces mesures ne rassurent pas encore ceux qui craignent un ralentissement de la croissance et même une récession avec une hausse du nombre des chômeurs. Le temps presse avec les élections de mi-mandat prévues en novembre.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement sénégalais a lancé mardi les travaux de la première usine de dessalement d'eau de mer du Sénégal pour améliorer l'approvisionnement de la métropole confrontée à des pénuries malgré les craintes des pêcheurs et des défenseurs de l'environnement. Avec une capacité prévue de 100 000 m3 par jour, l'usine aidera à mettre fin aux coupures d'eau qui empoisonnent la vie des Dakarois. Les travaux doivent coûter 137 milliards de francs CFA. Ils sont financés par l'État grâce à un prêt du Japon et dureront 30 mois. Le Togo a lancé la deuxième campagne de reboisement avec l'objectif de planter 21 millions d'arbres contre environ 3 millions d'arbres plantés l'an dernier. Les autorités ont pu mobiliser 133 000 hectares pour cette campagne qui a commencé le 1er juin. Le Togo veut planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, soit une moyenne de 100 millions par an. Pour terminer, la puissante centrale syndicale tunisienne UGTT annonce une grève nationale du secteur public le 16 juin pour protester contre l'inflation galopante et empêcher une privatisation des grandes entreprises publiques. Cette annonce risque d'exacerber les tensions dans un pays où le gouvernement a besoin du soutien de l'UGTT pour le programme de réforme qu'il a soumis au FMI dans l'espoir d'obtenir un nouveau crédit.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite ce jeudi des éliminatoires de la CAN 2023.
Le Mozambique défie le Rwanda et la Tunisie joue la Guinée équatoriale. Hier, le Ghana a dominé Madagascar 3-0. L'Angola s'est imposé 2-1 devant la République centrafricaine. La Libye a pris le dessus sur le Botswana 1-0. Lors de la deuxième journée, le Botswana justement va recevoir la Tunisie dimanche. La Libye, elle, se déplacera en Guinée équatoriale lundi. Pour rappel, 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.
Sao Tomé et Principe réintègrent le groupe A de ces éliminatoires.
Après avoir été disqualifié des éliminatoires de la CAN 2023, Sao Tomé et Principe retrouvent cette phase qualificative. Mi-mai, la CAF a disqualifié cette équipe pour avoir aligné le joueur Luis Leal face à l'île Maurice, soutenant que ce dernier n'aurait pas respecté les protocoles Covid-19. L'instance africaine du ballon rond a fait un revirement mercredi, revenant sur sa décision. L'appel de l'association de football de Sao Tomé et Principe est accueilli et la décision du conseil de discipline de la CAF est annulée dans son intégralité. Le résultat du match entre Maurice et Sao Tomé et Principe est entériné et validé, annonce la CAF dans un communiqué. En conséquence, Sao Tomé et Principe réintègrent le groupe A des éliminatoires de la CAN 2023 aux côtés du Nigeria, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau, et au départ de l'île Maurice qui avait été repêchée.
L'Argentine remporte la finalissima à Wembley.
L'Argentine a battu l'Italie 3-0 dans la finalissima entre les sélections championnes d'Amérique du Sud et d'Europe grâce à des buts de Lautaro Martinez et de Paulo Dybala servis par Lionel Messi et Arel Di Maria. L'Argentine remporte pour la deuxième fois en trois éditions ce trophée intercontinental après son succès en 1993 contre le Danemark. La France avait remporté la première édition en 1985 contre l'Uruguay.
tennis, les affiches des demi-finales sont presque complètes.
Le Croate Marin Cilic s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales de Roland-Garros en venant à bout d'André Rublev en 5-7 pour une place en finale. Cilic affrontera le Norvégien Casper Ruud ou le jeune Danois Holger Rune. L'autre demi-finale opposera vendredi Rafael Nadal, 13 fois sacré sur la terre battue parisienne, à Alexander Zverev.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, la junte au pouvoir confirme l'interdiction des manifestations faisant fi d'un récent appel de l'ONU et des protestations des partis politiques et de la société civile. Selon les autorités de Conakry, les manifestations de rue peuvent retarder l'exécution du calendrier de la transition. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est dans un communiqué lu ce mardi 31 mai 2022 à la télévision nationale que le CNRD a insisté sur le maintien des manifestations politiques en Guinée. Pour Sylou Bari, il faut laisser les Guinéens manifester à condition que les autorités et les partis politiques donnent des garanties qu'il n'y aura pas de dérapage.
Il y a des règles de base en démocratie. Au moment où, si la manifestation a lieu, ceux-là qui veulent organiser donnent les garanties d'encadrer la manifestation d'un point A au point B, sans qu'il y ait cas, sans qu'il y ait mort d'homme. Je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Parce que c'est, on dit que c'est la démocratie, chacun est libre d'exprimer ses opinions.
Exprimer ses opinions, même à travers des manifestations de rue, ce jeune sociologue n'y trouve pas d'objection. Mais pour Ablaye Sidi Bé, le moment n'est pas opportun pour de tels mouvements.
On doit aujourd'hui lutter contre certains fléaux. Et puis, c'est la période donnée pour la Guinée de parler de réconciliation entre les Guinéens, de faire la lumière sur les tueries qui ont eu lieu durant tout le temps du régime renversé. C'est très contradictoire qu'on soit dans cet exercice et qu'on donne le droit fondamental à des gens qui veulent manifester, revenir sur les habitudes des manifestations précédentes, et puis qu'il y ait des morts, on va se retrouver dans un éternel recommencement des choses.
Selon une partie de la classe politique guinéenne, au moins 200 manifestants ont été tués. Pour ce jeune citoyen rencontré dans la banlieue de Conakry, on peut bien éviter de nouvelles tueries pendant des manifestations en Guinée.
Le président devait vraiment comprendre aussi l'association des autres. Parce que sur quel point ils sont en train de revendiquer, on ne sait pas. D'abord, créer un dialogue entre ces personnes pour comprendre réellement ce qu'ils veulent.
Manifester est un droit qu'il faut respecter, soutient à son tour Alpha Oumar.
On doit laisser les hommes manifester. Comme l'article 10 de la Constitution guinéenne le prévoit, il faut laisser les hommes manifester. L'État est là pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens.
Il y a deux semaines, la junte au pouvoir en Guinée a annoncé l'interdiction des manifestations politiques de rue, deux jours après l'adoption d'une durée de 3 ans de transition par le Conseil national de la transition, organe législatif. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Des entreprises nigérianes disent être confrontées à la hausse des prix du blé déclenchée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, principaux pays fournisseurs de céréales. Avant le conflit, le Nigeria faisait déjà face à des pénuries de carburant et d'électricité. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
Mwasuku Orizu, fondatrice de Soma Diomise, une entreprise de lait maternisée, attend une livraison de blé brun, élément essentiel dans la préparation de ses produits. Elle improvise en attendant son prochain approvisionnement.
So I use wheat alongside them.
Donc j'utilise du blé avec de l'avoine et de la farine d'igname pour produire celui-là en particulier. À vrai dire, il m'a même été difficile de l'obtenir. Il ne s'agit pas seulement de l'augmentation de prix. Obtenir le blé est en fait difficile maintenant parce que j'achète en gros.
Madame Orizou a commencé à produire des préparations pour bébés il y a 6 ans, après avoir quitté son emploi de scientifique de laboratoire. Elle regrette que les affaires tournent au ralenti ces derniers temps à cause du retard dans les approvisionnements en blé.
So I'm already...
J'essaie déjà de chercher comment remplacer le blé par autre chose. Ce que nous avons en tête pour l'instant, c'est l'achat du fonion. Je dois prendre cette décision d'ici vendredi.
Le Nigeria a importé environ 2 milliards de dollars de blé en 2020 et 2021, principalement des États-Unis et de Russie. Selon l'Association des producteurs de blé, la production locale couvre moins de 10% des besoins du pays. Avant la guerre en Ukraine, les entreprises nigérianes subissaient déjà des pénuries d'électricité et de carburant, s'ajoutant à l'inflation et l'insécurité croissante. Segun Adjaï Kadir, président de l'Association des fabricants du Nigeria.
L'insécurité a rendu la chaîne d'approvisionnement interne très difficile. Les régions les plus touchées du pays se trouvent également être la ceinture d'où proviennent la plupart de nos aliments. Nous avons des défis. Maintenant, c'est aggravé par le fait que les gens ne peuvent même pas cultiver.
De nombreuses entreprises, comme la boulangerie Doustaman Mohamed, n'ont plus d'électricité et dépendent du diesel pour alimenter les générateurs. Mais le prix des carburants a triplé depuis le début de l'année.
Chaque jour, nous utilisons beaucoup de diesel, car l'électricité est très rare.
Les autorités nigérianes ont retiré de la circulation en janvier 170 millions de litres de carburant contaminés, ce qui a entraîné des pénuries. En attendant des jours meilleurs, la plupart des entrepreneurs comme Mwachukwu Orizu et Ousmane Mohamed font tout leur possible pour ne pas devoir mettre les clés sous la porte.
C'est le début de la saison sèche à Kinshasa, aussi l'occasion de faire les bonnes affaires pour les vendeuses et vendeurs de friperies. Ces vêtements de seconde main sont de plus en plus prisés pendant cette période. Les Kinoises et Kinois estiment même qu'ils sont de meilleure qualité, mais faire des bénéfices devient de plus en plus compliqué pour ceux qui s'adonnent à ce commerce. Reportage de notre correspondante à Kinshasa, Élisée Odia.
Chaque année, le 15 mai marque officiellement la fin de la saison de pluie et le début de la saison sèche à Kinshasa. Ce changement influe sur les habitudes mais également sur l'habillement. Feli est un vendeur dans une boutique au quartier Upen dans la commune de Ngaliema. Pendant cette période de basse température, c'est à la friperie qu'il préfère se procurer des vêtements chauds pour se protéger contre le froid. Selon lui, la qualité est bonne et ça peut servir longtemps.
J'aime les habits de la friperie parce qu'à mon avis, ils sont de bonne qualité, même si ce sont des vêtements de seconde main. C'est vrai que ça a déjà été porté, mais apparemment pas pendant longtemps. Et quand nous les reprenons, nous pouvons les porter pendant 2, 3, voire 4 ans.
Honoré, vendeur ambulant, a lui aussi une préférence particulière pour la friperie, même s'il affirme que les vêtements neufs sont indispensables dans certaines occasions.
J'ai choisi d'acheter un pull à la friperie parce qu'ils sont lourds, mais ceux qui proviennent de la Chine, par exemple, sont aussi bien parce qu'ils sont neufs et que tu peux sortir avec.
Si les fripes, communément appelées tombola à Kinshasa, sont très appréciées, leur achat en gros et la vente en détail devient difficile. La hausse de la douane et du prix de transport ne permet plus aux vendeurs de faire des bénéfices. Gypsy est demi-grossiste depuis plus de 2 ans. Elle évoque d'énormes difficultés qu'elle rencontre dans son travail.
Ce sont des tricots, cagoules, survêtements pour enfants et adultes qui se vendent des mieux. Mais nous assistons à une hausse de prix. Avant, un colis de ces habits coûtait 75 $ américains. Actuellement, le même colis varie entre 110 et 120 $ américains. La vente au détail devient difficile et nous avons de plus en plus de mal à récupérer même notre capital. À cela, il faut ajouter la hausse du prix du transport et ça ne nous facilite pas la tâche.
Malgré toutes ces contraintes, avec la saison sèche ou pas, les Quinois ne sont pas prêts à lâcher les morceaux de seconde main et comme tout est devenu cher, la friperie a encore des beaux jours devant nous. Élisée Odia, Kinshasa, pour VOA Afrique.
Au Togo, l'aéroport de Lomé accroît ses liaisons avec les États-Unis après les vols directs à destination de Newark et de New York. Lomé va être désormais relié à la capitale américaine Washington à raison de 3 rotations hebdomadaires portant ainsi à 10 les vols directs vers les États-Unis. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Petit à petit, le Togo est en train de réussir son ambition de faire de l'aéroport de Lomé un hub logistique de premier plan dans la sous-région ouest-africaine et centrale. Pour le directeur de la société aéroportuaire de Lomé, l'augmentation de la fréquence des vols vers les États-Unis à partir de Lomé n'est pas le fruit du hasard. Colonel Nyamalata.
Ne va pas aux États-Unis, celui qui vient pour remplir les normes de sécurité et de sécurité. Nous avons déployé toutes les normes de sécurité et de sécurité. Les body scanners, les outils de détection de traces d'explosifs. Nous avons l'applicat scanning qui détecte la drogue et les explosifs. Nous avons été audités. On a eu un taux très élevé de 91%. Nous voulons continuer à assurer cette sécurité et cette sûreté sur l'aéroport. Sans ces éléments, personne ne vient vous rendre visite.
La compagnie aérienne Sky Airlines, qui dessert 24 destinations et qui a fait de Lomé son hub, se frotte les mains. Pour le directeur Théolde Gebremariam, la plateforme de Lomé est en train de devenir un hub géant pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Le partenariat avec Ethiopian Airlines fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, nous avons 10 vols hebdomadaires à partir du Togo vers les États-Unis. New York, Newark et Washington DC. Ceci va aider à la promotion des affaires, du tourisme et les transports de marchandises entre les deux continents. Nous sommes fiers de travailler pour cela.
Le ministre togolais chargé des transports aériens a indiqué que le gouvernement va poursuivre ses efforts afin de permettre à l'aéroport de Lomé de devenir une plaque tournante du trafic aérien du continent. Acha Dedi Afo.
Le gouvernement met en place les instruments stratégiques nécessaires à la promotion du transport aérien. L'aéroport international Sengeyatema demeure la deuxième plateforme aéroportière de la sous-région africaine, la plus connectée aux autres capitales et deuxième meilleur trafic de passagers de Limoua depuis 2020. Cette ligne va donc permettre de faciliter les déplacements de l'importante communauté africaine vivant dans la sous-région et aussi des personnes opérant dans plusieurs secteurs d'activité.
Ils étaient 200 passagers pour le vol inaugural Lomé-Washington. Ethiopian Airlines, le transporteur, fait savoir que la fréquence des vols à destination des États-Unis pourrait augmenter si la tendance se maintient. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine et les changements de constitution aux fins de confiscation du pouvoir. Lors du sommet de Malabo du week-end dernier, l'Union africaine a certes condamné le retour en force des coups d'état militaires, mais elle a aussi dénoncé les modifications de constitution qui peuvent aboutir à des coups d'état ou des révoltes. L'Union africaine africaine a-t-elle décidé de combattre avec le même engagement les coups d'État militaires et ceux que Mahamat Bakhti appelle les coups d'État rampants en référence au changement constitutionnel? Comment éviter les crises politiques nées de ces changements? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 de Bruxelles sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée, à l'écoute de VOA Afrique.